Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, donc, à la suite d'une demande d'un collectif dans lequel on participe, Denis et moi, cet atelier souhaite faire des émissions un peu engagées sur le côté social de notre société qui part un peu à volo. Hein. Et donc, on est venu vous voir, vous, Confédération Paysanne, pour vous demander quelle est votre position, à la fois en tant qu'acteur économique, acteur sur tout ce que l'on mange, et comment vous voyez cette société, et qu'est-ce que c'est d'abord la Confédération Paysanne.
Alors moi déjà je me présente, je suis Carole Pouzard, une des co-porte-paroles de la Confédération Paysanne. J'élève des chèvres ici, à Aubignas, et on fabrique du fromage avec mon mari, et tout est en vente directe.
Alors moi c'est Pierre-Yves Marais, je suis un des autres porte-paroles de la Confédération Paysanne. Et moi, je suis producteur de fruits en agriculture biologique sur la commune de Saint-Michel-de-Boulogne.
Alors, qu'est-ce que c'est la singularité de la Confédération Paysanne par rapport à d'autres syndicats agricoles, puisqu'il y en a d'autres, hein. Bon, comment vous positionnez-vous sur, justement, l'installation, les surfaces, voilà.
Alors, la Confédération Paysanne est un syndicat agricole minoritaire. Mais on constate quand même de plus en plus une évolution des comportements et de nombreuses personnes sont tout à fait d'accord avec l'agriculture qu'on défend depuis 30 ans. Donc la Confédération Paysanne défend une agriculture vertueuse, on va dire, qui est respectueuse du vivant, des êtres humains, l'environnement, les petites bébêtes, la terre et l'eau et tout ce qui s'ensuit. Et puis, on défend bien sûr l'activité paysanne.
Alors moi, pour compléter, je dirais que la Confédération Paysanne fait partie de la Via Campesina, donc c'est un syndicat international, et qui a pour objectif de créer ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Donc la souveraineté alimentaire, ça veut dire que chaque pays puisse avoir la possibilité de se nourrir de ses propres moyens. Donc de sortir de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une agriculture de marché, une agriculture de concurrence, une agriculture qui s'industrialise par le fait, puisque l'objectif est de produire au plus bas prix. L'agriculture vivrière, c'est le contraire, c'est de laisser chaque population les moyens de pouvoir se nourrir en empêchant évidemment les mises en concurrence, telles que par exemple pour les céréales, nous on subventionne les États-Unis, on subventionne nos céréales avec des rendements énormes et qu'on va pouvoir vendre dans les pays du tiers-monde à bas prix en leur faisant produire d'autres choses dont on aura besoin. Donc nous on s'oppose à ces échanges, on veut vraiment donc une agriculture dite vivrière.
Là tu parlais évidemment de l'autre agriculture, de celle qui fait produire...
Celle qu'on défend, nous on défend l'agriculture vivrière face à l'agriculture D'accord. industrielle, l'agriculture de marché qui est en place aujourd'hui depuis maintenant l'après-guerre quoi.
Non, je ne voulais pas qu'il y ait de confusion parce que tu as parlé de l'agriculture industrielle à un moment.
Hein. Oui, oui.
Donc évidemment, vous êtes dans la défense d'un autre modèle, mais d'un modèle aussi dans lequel peut-être l'agriculture offrirait plus d'espace pour travailler, plus de embaucherait plus de gens ou...
Face à la crise qu'on vient de connaître, je pense quand même qu'il est temps de reconnaître notre métier d'intérêt public. Et ça paraît logique, mais ça ne l'est toujours pas. Et valoriser notre métier, c'est aussi du coup donner envie de faire ce métier et d'installer plus de monde. Et du coup, d'avoir des territoires bien plus dynamiques, parce que tout est en réseau. S'il y a plus de paysans, il y aura des gens qui vont transformer aussi et qui, avec d'autres acteurs, vont pouvoir faire vivre tout un territoire en fonction du climat, en fonction de la demande aussi, parce que tous les territoires n'ont pas les mêmes demandes. Donc c'est vrai que l'agriculture paysanne, elle répond tout à fait à tous les enjeux que la population attend depuis longtemps, et surtout après la crise qu'on vient de subir. Je crois qu'on est enfin conscient qu'on ne peut plus faire le tour du monde à tous les produits, et notamment aux produits agricoles, et que l'agriculture doit vraiment sortir De la spéculation et des profits. On ne peut pas toujours, effectivement, travailler plus, gagner moins, produire plus, jeter plus à moindre coût, aux dépens de notre santé, de l'environnement, de notre métier et puis aussi des autres. Parce que quand on fabrique à bas coût ici, c'est peut-être que la matière première est venue d'ailleurs. Et ailleurs, il y a des paysans aussi qui souffrent de par notre agriculture qu'on met en place en France. Et tout ça, c'est très politique. Donc le après-crise, c'est vraiment des vraies mesures politiques. C'est les décideurs qui agissent vraiment sur la politique agricole et autres, parce que l'agriculture, en fait, ça englobe énormément d'autres choses à côté. Prennent les bonnes décisions pour prendre un vrai tournant. Et le cap doit se faire maintenant, on a vu comment ça s'est passé. Donc plus on sera nombreux en tant que paysans, plus on aura un revenu aussi décent, plus on mangera bien. Tout ça, c'est que du plus. Et c'est vrai que l'agriculture paysanne, c'est une agriculture d'utilité, d'intérêt public, et pour un commun, pour un bien commun, vraiment pour le bien-être de tous.
Alors bien sûr, là, dans ce que tu dis, là, on voit que tu viens au fondamental, c'est-à-dire à l'installation, hein, quelque part, du paysan, du futur paysan. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des surfaces gigantesques, comme on voit que petit à petit, ça devient presque la norme d'une certaine agriculture? Vous êtes dans un autre modèle, à la fois sur la surface d'installation, et puis sur l'installation elle-même, tout simplement. C'est-à-dire que ce paysan qui va s'installer, il va peut-être pas être, je sais pas moi, en train de piloter un tracteur depuis l'espace. C'est pas ça.
En fait, le modèle d'installation d'aujourd'hui, elle est normée sur des surfaces, ou sur du revenu, ou sur des heures de travail, mais ça c'est lié à un modèle agricole qui est voulu, c'est-à-dire qu'on a favorisé de manière assez impressionnante une agriculture qui réussissait à produire de la matière première au plus bas prix. Donc une agriculture d'ailleurs qui était très largement dépendante de l'amont, c'est-à-dire que les phytosanitaires, le matériel, l'agriculture moderne fonctionne vraiment sur ces deux pieds-là. Avec la baisse des produits phytosanitaires, enfin l'objectif de baisser les produits phytosanitaires, c'est la mécanisation qui prend de l'ampleur. Mais nous, on ne défend pas du tout ce modèle-là, nous, on défend au contraire une agriculture qui est peu coûteuse. C'est-à-dire que de travailler, ce qu'a dit Carole, avec les ressources, ce qu'on a localement, comment on peut vivre avec ce qu'on a localement, l'eau dont on bénéficie, la terre dont on a, qu'est-ce qu'on peut trouver, comment on peut travailler avec les choses qu'on a localement. L'objectif, ce n'est pas de faire des énormes investissements pour arriver à faire des choses à très bas prix, et avec des marges très faibles, mais faire de la quantité. Non, l'objectif, c'est de faire le contraire, de baisser au maximum les charges, de revaloriser au mieux, de se rapprocher du consommateur. Et donc, du coup, bah, tout va avec, hein. Revendre localement, créer de l'emploi. Parce que, je veux dire, quand vous achetez des produits phytosanitaires, il y a moins d'emplois qui sont créés, mais il y a des profits qui sont faits ailleurs,
quoi. C'est l'autonomie des fermes, en fait, qui est recherchée.
D'accord. On sent bien que là, vous touchez à tous les sujets qui sont autour de la production. Parce que là, on a parlé des produits, hein. Alors ça peut être pesticides ou produits phytosanitaires d'une manière générale. Et en même temps, on sent bien que vous êtes aussi dans la posture de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est dans la société. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui émerge sur ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui produit un truc et puis basta, il n'a plus rien à voir avec, avec ce qu'il a produit. Vous êtes complètement partie acteur. Intégrante, acteur, voilà. Hein. Il me semble que ça apparaissait beaucoup. Et puis, il y a quelque chose qui apparaissait un petit peu dans ce que tu disais tout à l'heure, Carole, c'est sur le fait que ben, peut-être que ce Covid, il a participé à nous faire prendre conscience de ce que c'est un échange et qu'est-ce que c'est des produits qui viennent de loin. C'est un petit peu ce que tu as dit aussi quand tu as parlé de quelque chose qui fait le tour de la planète. Voilà, hein. Donc oui, tu avais parlé, parce qu'on a déjà commencé à faire cette émission à un autre moment, de l'Italie, de l'Espagne, du confinement et de la prise de conscience de d'où vient le produit et qu'est-ce qu'il est.
Bah, oui, en fait, le confinement nous a fait comprendre, pas qu'en agriculture d'ailleurs, qu'en fait, aujourd'hui, on a créé une société dans laquelle tout est interdépendant les uns les autres, peu importe d'où viennent les produits, ce qui compte, c'est que ce soit pas cher. Donc on met en concurrence des gens qui ne sont pas dans les mêmes situations sociales, et forcément, ça peut faire que baisser le niveau de vie, enfin, le niveau social des pays les mieux elle est mieux garnie, si j'ose dire. Parce que si on met en concurrence un paysan qui travaille, qui a des salariés qui sont à 200 euros de l'heure avec un autre qui est à 1200 euros, forcément, celui qui a 200 euros de l'heure, il pourra vendre ses produits moins chers. Donc l'objectif, c'est pas forcément de faire du protectionnisme dans le sens fermeture des frontières, mais c'est de tout faire pour que les produits soient relocalisés. Et d'ailleurs, au final, je pense que ça pourrait faire que monter les prix des autres pays, ceux qui vendent le moins cher, parce qu'ils n'auraient plus d'intérêt à vendre moins cher. Donc, nous, l'idée, c'est véritablement de se dire, ben voilà, essayons de rapprocher au plus la production des mangeurs, quoi.
À la conf, on milite pour qu'il y ait un prix minimum d'entrée des produits, parce qu'on ne peut pas accepter effectivement d'être tous en concurrence tout le temps, une fausse concurrence, parce que du coup, au niveau normes sanitaires, environnementales, on n'est pas sur les mêmes choses. Et puis le transport, quand on voit des tomates ou des légumes qui viennent du sud de l'Espagne et qui doivent traverser toute l'Espagne et la France, c'est complètement fou. Mais on continue là-dedans. Et effectivement, le prix pas cher, à un moment, ça a un coût de la santé, un coût sur l'environnement, sur la pollution et tout ça. Donc c'est ça qu'il faut arrêter, faire comprendre aux gens, effectivement, mais c'est surtout aux politiciens de prendre des mesures pour qu'effectivement, des produits qu'on fabrique en France n'arrivent pas à trois fois moins cher. Forcément, c'est vite vu, et les grandes surfaces, elles font vite le tri, et revaloriser notre métier et notre revenu, ça passe par là aussi.
Oui, donc ce modèle à l'américaine, hein, comme on peut dire à certains moments, de grandes surfaces qui permettent d'avoir accès à des prix moins chers, en tout cas, c'est pas du tout votre tasse de thé. Et si j'ai bien compris, votre vision est beaucoup plus globale que ça, puisque à un moment donné, demander à ce qu'il y ait nécessairement des prix qui ne soient pas trop revus à la baisse, ça veut dire aussi penser la société d'une façon plus globale, c'est-à-dire aussi revaloriser certains salaires pour que les gens puissent accéder à certains produits qui ne soient pas des produits, j'avais un mot dans la bouche, mais je ne vais pas le dire, mais voilà, que ce soit des vrais produits qui aient un côté... moi, il me semble qu'il y a une espèce de culture du produit aussi dans ce que vous défendez. C'est-à-dire, une tomate, c'est une tomate, c'est pas un machin en plastique rouge, quoi. Comme on peut trouver dans
le supermarché. On ne peut pas dire que les produits alimentaires soient une marchandise comme les autres. C'est effectivement pas un canapé ou une table. Donc il faut quand même veiller à ce que on reste dans un équilibre, et un équilibre pour tout le monde.
Puis on travaille quand même du vivant, c'est-à-dire que nous, au quotidien, on a affaire à la nature, on est dans la nature, on a notre place à avoir. Il faut faire évidemment très attention à ce qu'on fait par rapport à ça. Et en effet, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où l'agriculture, elle a presque plus besoin de la terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de produire des tomates sous serre, en hydroponie, donc sans aucun pullien au sol.
Et dans des serres chauffées aussi.
Dans des serres chauffées. Donc en fait, on s'aperçoit bien que tout ça, ça n'a qu'un seul intérêt, c'est le profit. C'est pas du tout fait ni pour la santé, ni pour le goût, ni pour... voilà, pourquoi manger des tomates au mois de janvier, en février, pourquoi dépenser toute cette énergie là-dedans. Donc oui, nous, on veut, en effet, retenir compte de tous ces trucs-là pour produire une alimentation de qualité. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut se poser la question si l'alimentation qui est vendue à des fois à des prix, on ne sait même pas d'ailleurs comment les mecs ils peuvent gagner leur vie avec ça, quand on voit ces prix-là, cette alimentation quand même, les produits, est-ce qu'elle est faite ? Elle est censée être là pour nourrir, mais est-ce que vraiment, quand on voit tout ce qui a été, comment ça a été produit, on peut même se poser la question si elle nourrit ou si elle détruit pas vraiment, parce que, enfin, entre tous les insecticides, les pesticides, enfin, les fongicides, les serres chauffées, le transport, le machin et tout, enfin, c'est quand même assez mortifère, quoi. Ça paraîtrait quand même beaucoup plus logique d'essayer de consommer local, quoi.
Et pour la santé humaine aussi, parce que quand on mange une tomate qui n'a aucun goût et aucune valeur nutritionnelle parce qu'elle n'a pas été cultivée dans des bonnes conditions, le coût de la santé, manger, ça fait du bien aussi. Ce n'est pas juste se nourrir parce que c'est un besoin. C'est important aussi de manger de la bonne viande, des produits de qualité, pour être en santé aussi derrière. Et tout ça, c'est lié. Et quand on parle de relocalisation, c'est les productions, de la vente aussi, mais aussi réguler. Parce qu'on ne peut plus accepter, effectivement, qu'à un moment, sur les marchés, il y ait trop de lait, par exemple, ou trop de viande, et que du coup, les prix s'effondrent. Les paysans sont toujours la dernière roue de la carrosse, et donc c'est toujours eux qui trinquent par rapport au prix. Les charges continuent, donc c'est un système qui ne va vraiment pas, et il faut vraiment remettre à plat tout ce système alimentaire au niveau national, mais carrément mondial, pour éviter effectivement ce qu'on a vécu.
Quand on préparait, j'avais marqué paysan, exploitant agricole, businessman. C'est vrai qu'on peut avoir ces trois casquettes dans l'agriculture, mais en fait, dans ce qu'on vous entend défendre, vous défendez un métier et pas un truc qui fait du fric.
Hein ? Oui, c'est le métier de paysan, c'est-à-dire que c'est un métier d'intérêt public. Encore une fois, on vend de l'alimentation, c'est obligatoire de manger. Il y a tout un tas de trucs qui sont nécessaires, mais là, c'est carrément obligatoire. Donc, on n'a pas le choix, il faut qu'on mange. Alors, donc, c'est complètement ridicule de mettre ce métier-là en concurrence les uns les autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'oppose aux accords de libre-échange, parce que qui vont encore soit favoriser une agriculture à plus bas prix, avec le dumping créé par les aides et subventions des pays les plus riches pour certaines matières premières. Donc à un moment donné, il faut revoir ce système pour trouver une agriculture qui soit durable. Et puis surtout, on ne peut pas se satisfaire non plus du résultat de cette agriculture industrialisée depuis la fin de la guerre, parce qu'elle a fait que perdre des emplois. Maintenant, on voit 400 000 paysans en France, donc c'est quand même pas énorme. Et on se rappellera que Jacques Delors, en 1981, il avait dit que 200 000 paysans suffiraient, on n'y est pas.
En un siècle, on est passé d'un pays complètement, à une grande majorité agricole, à autre chose.
Ouais. Et là, aujourd'hui, on est, alors qu'il y a une richesse, il y a de l'emploi à créer, du travail. Et moi, je trouve que ce serait beaucoup plus logique de se consacrer à une production de qualité plutôt qu'avoir une production de moins bonne qualité et par contre de passer de l'emploi à de l'énergie pour essayer de la vendre sur des marchés, de la publicité, Donc, c'est un peu ridicule.
On a perdu un grand nombre de paysans, mais aussi, on a aussi beaucoup perdu en biodiversité. Ouais. On a aussi beaucoup perdu en état des sols. C'est l'agriculture industrielle comme elle est depuis des années pour pouvoir nourrir la population, ce qui n'est pas vraiment le cas non plus, ou à quel coût. On voit que ça ne marche pas. Et on voit aussi surtout la dégradation de tous les milieux. Et le problème, c'est que remettre un peu de biodiversité, un peu de terre un peu plus fertile, c'est compliqué quand on est depuis des années et des années à se battre contre certaines pratiques ou contre l'emploi massif d'antibiotiques ou de pesticides et que ça passe toujours à la trappe alors qu'on sait ce qui est absolument pas bon pour la terre et pour nous. Et tout à l'heure, concernant les profits, il faut vraiment partager, en fait. Le mot est partagé. Et bien sûr qu'il faut faire des profits et que même en tant que paysan, c'est normal d'avoir un chiffre d'affaires et de gagner sa vie grâce à son travail. Mais c'est la répartition de comment c'est fait. Quand on prend sur un litre de lait ou sur un kilo de tomates la répartition de la valeur, effectivement, le paysan n'est absolument pas rémunéré. Donc c'est ça, cette répartition qu'il faut plus juste pour tout le monde.
D'accord. Vous aviez parlé aussi PAC et pas HAC. Alors, peut-être, Pierre, tu peux...
Nous, en fait, à la CONF, on milite depuis longtemps d'arrêter de parler que d'agriculture, mais d'alimentation. Ça revient à ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus là dans simplement la production pure et dure d'une matière ou d'une autre, enfin, ou d'un produit à commercialiser. Non, on parle d'alimentation, donc encore une fois, quelque chose d'obligatoire qu'on doit manger. Donc ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que les paysans, ça concerne tous les citoyens qui, plusieurs fois dans leur journée, vont avoir à se nourrir. Et donc, cette politique agricole, aujourd'hui, elle favorise, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, elle favorise une agriculture industrielle. Nous, on veut sortir de ça, on veut une agriculture, on veut une PAC qui favorise une alimentation de qualité. Nous, notre idée, qu'on propose depuis longtemps, c'est que la PAC soit distribuée par rapport à l'actif, alors qu'aujourd'hui, elle est distribuée par rapport à la surface. Donc nous, l'idée, c'est de favoriser l'emploi. Plus il y aura d'emplois en agriculture, plus on pourra produire de la qualité. C'est évident, c'est lié. On peut pas, la mécanisation ne peut pas pallier à la qualité, sinon ça se saurait. Donc on a bien remarqué que les fermes qui faisaient des produits de meilleure qualité, et que souvent d'ailleurs on met en avant, hein, dans le salon de l'agriculture ou dans les chambres d'agriculture, c'est toujours cela qu'on met en avant. On voit le gars qui ramasse ses châtaignes dans un panier, quoi. Mais non, mais je veux dire, c'est une réalité. Il y a une image derrière ça qui est mise en valeur. Et donc c'est l'emploi, il faut favoriser l'emploi. Et c'est un métier c'est un métier qui n'est pas valorisé aujourd'hui. Quand on parle du paysan, c'est le type, il travaille comme un fou, il gagne 300 euros par mois, ouais, il vit tout seul quelque part, il prend jamais de vacances, il ne sait pas ce que c'est, qu'il ne va jamais voir un film au cinéma. Donc c'est un métier qu'il faut revaloriser. Travaillons à revaloriser ce métier, à faire comprendre aux gens que c'est un super beau métier, que c'est intéressant. C'est un métier c'est travailler avec du vivant, c'est formidable. C'est-à-dire que tous les jours, rien, il n'y a pas un deuxième jour, un jour qui est pareil que celui d'avant, quoi. Tous les jours, il y a un nouveau truc. Donc, c'est un métier qu'il faut absolument inciter les gens. Et le meilleur moyen, c'est de faire une agriculture où la personne qui travaille, il soit investi dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il sait ce qu'il fait, quoi. Il a l'amour d'avoir taillé son arbre, l'amour d'avoir trait sa chèvre, de voir ses animaux en bonne santé, ses plantes en bonne santé.
Du sens.
Du sens.
Non, mais bien plus, le consommateur est demandeur. Un consommateur, il suffit d'aller sur les marchés ou faire des dégustations. Les gens, le contact avec le producteur, quoi qu'il soit, soit dans l'élevage ou pas, les gens sont demandeurs. Ils veulent le contact qu'ils ont, les explications. C'est flagrant. Les gens, ils veulent se rapprocher des paysans. Ils veulent se rapprocher des gens qui sont sur le terrain, qui peuvent parler de leur métier, qui peuvent parler de leurs produits. Qui sont là toute l'année ou presque sur leur terre, et les gens ont besoin de ça. Ça les rassure.
Et puis, ils ont besoin d'être rassurés. Les touristes qu'on a en ce moment, ils trouvent que notre paysage est vachement beau. C'est aussi grâce aux paysans, et ils sont très contents, effectivement, de manger des petits fromages, de la bonne crème de châtaigne et tout ce qu'on peut produire en Ardèche, où on a quand même beaucoup de chance parce qu'on a énormément de produits. On est très diversifié comparé à d'autres départements. Donc, on peut trouver de tout.
Oui, puis on a gardé beaucoup de marchés. Toute la semaine, il y a des marchés à droite à gauche. Donc, la personne qui veut s'approvisionner, elle peut...
On a aussi développé les magasins de producteurs, toutes les AMAP et tout ça. C'est en pleine expansion. Avant le Covid, c'était ça, mais après, effectivement, ce confinement, les gens ont pris une grosse conscience qu'autour d'eux, il y avait des paysans et que ce n'était pas juste la pancarte. Et ils sont rentrés dans les fermes, donc ça, c'est important. Concernant la PAC, ça va être le levier le plus important. On disait effectivement à l'actif plutôt qu'à l'hectare. Ça paraît tellement logique pour éviter l'agrandissement des fermes, pour éviter que des grosses structures, la spécialisation des territoires et tout ça, ça passe forcément par la PAC parce que l'argent fait partie d'une ère de la guerre. Donc, tant que la PAC ne va pas changer, ça risque d'être compliqué d'avoir une nouvelle société et puis un jour d'après correct pour tout le monde et durable et viable.
On le voit, les grosses structures, elles font botter les petites structures. En équipement, ils achètent les derniers cris de ce qui est comme matériel. Et en plus, ils jouent que sur la monoculture. Donc voilà. Et du coup, ils sont super équipés, ils sont super pointus dans leur truc.
Et super endettés.
Aussi, des fois, oui. Parce que,
donc là, l'autonomie n'y est plus du tout. Et c'est
une
course tout le temps.
Suite, voilà, les mauvaises années, de suite, ça a une répercussion pas croyable. Et ils ne sont pas plus heureux pour ça. Hein. Faut pas croire que le gars qui a 120 ou 130 ou plus d'hectares de blé ou comme on est, il est heureux et... Non. Mais ça fait boule de neige. Voilà. Il faut s'agrandir pour pouvoir vivre. Du coup, ben, quand on s'agrandit, il faut acheter du matériel plus compétent. Donc on s'endette et ça ne finit plus. Quoi.
C'est pour ça qu'il faut retrouver du sens à notre métier. Savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, pour qui et qu'est-ce qu'on veut faire, vraiment. Et s'affranchir de tout ce qui est à côté qui ne nous plaît pas, sous prétexte, effectivement, de profit ou de faire plus de rendement ou d'être toujours dans les clous.
Surtout que la monoculture, c'est très dangereux pour la nature. Du moment qu'on concentre que ce soit des bêtes ou du végétal, à un endroit bien concentré, automatiquement on amène des maladies, des ravageurs, et automatiquement il faut plus d'antibiotiques, plus de pesticides, peu importe.
Toutes les crises sanitaires sont arrivées par là, voilà. La concentration des bêtes.
Ben oui, chaque
la
fois.
La grippe aviaire.
Pour les gens, c'est pareil. Je veux dire, si on concentre des gens, ben oui, il y a des maladies qui arrivent. C'est exactement pareil. Du moment qu'on concentre une monoculture quelque part, automatiquement, ben, il y a des maladies qui s'installent. Ou qui rentrent par les aliments ou par l'air ou peu importe, par les oiseaux. On l'a vu avec la chemin, ben oui, on arrive à avoir des pandémies, chaque fois, ben oui, c'est le consommateur qui trinque parce que...
Et le paysan, voilà, et c'est les dérives, oui, effectivement, oui, de cette agriculture qu'il faut abattre.
Ah ben juste, ce que je voudrais rajouter, c'est que à la conf, on ne défend pas des solutions individuelles ou des petits îlots qui viendraient se mettre en place. Souvent, nous-mêmes, dans notre propre avantage peut-être d'être paysan, c'est qu'on peut réussir à travailler le projet dans sa petite ferme et d'arriver à trouver la façon de travailler, la façon de marcher, de vendre, pardon, sur les marchés ou ailleurs localement, pour être cohérent avec ce qu'on a envie de faire. Mais nous, on défend pas le fait que ça marche individuellement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment changer politiquement l'agriculture. Parce qu'on n'est pas, satisfait qu'il y ait d'un côté une agriculture très industrielle qui, elle, pollue et prédatrice, en tout cas déjà au niveau des aides et même au niveau de la biodiversité, et puis d'avoir des petits paysans qui s'en sortent parce qu'il y a un petit public qui est demandeur. Non, nous, on veut véritablement changer le modèle agricole, et ça a été dit tout à l'heure. En effet, ça passera certainement par l'augmentation des prix des denrées agricoles. Donc là, la solution, ce serait évidemment un meilleur partage des richesses et des revenus. Mais par contre, nous, on propose ici une autre solution, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale alimentaire. Ce serait une aide aux gens pour pouvoir se nourrir de meilleure qualité. Donc une aide de 150 euros par exemple par mois pour les gens qui auraient des salaires les plus faibles, mais simplement dédiée à l'alimentation.
Le produit, le prix du produit à la vente n'est pas obligé d'augmenter, c'est certain qu'ils doivent diminuer leur marge. Les marges des grandes distributions est énorme, la pression qu'ils mettent sur les
agriculteurs. Il y a quand même, quand tu vois des fois des prix, tu vois des raisins à 90 centimes d'euros le kilo, même un paysan en vente directe, il n'y arriverait pas. Il y a quand même des trucs...
Mais c'est des appels d'offres.
Oui,
plus le transport et la logistique, ouais. Qu'est-ce qui reste à...
Quand tu vois la pizza du supermarché congelée à 1,50€, je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'il y a dans la pizza?
Ouais. Il me semble que dans la préparation, il y a quelque chose qui est ressorti dans ce que vous disiez. On va peut-être s'arrêter là pour cette première partie, en tout cas. Vous disiez manger à sa faim. Ouais. Mais c'est valable pour tous. Hein? Aussi bien quand tu dis monter peut-être un peu les salaires pour certains, pour qu'ils puissent accéder à certains produits ou avoir cette sécurité sociale agricole.
Alimentaire.
Hein. Alimentaire, pardon. Mmh. Excuse-moi. Oh. Et donc, voilà, manger à sa faim. Que tout le monde puisse manger à sa faim. Quelque chose qui a vraiment du sens.
De qualité.
Ça revient à ce qu'on parlait au début de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de revenir à ce que chaque pays... Aujourd'hui, il y a quand même des pays en Afrique qui produisent de l'arachide en pagaille, mais qui ne sont pas du tout autonomes au niveau céréales, parce qu'ils achètent des céréales en France, où le rendement, il est des fois jusqu'à 10 à 20 ou même 50 fois plus important, plus subventionné. Donc aujourd'hui, il faut bien voir qu'en fait, tout ça, c'est des stratégies commerciales. Là, on parlait tout à l'heure, quand tu déforestes un coin d'Amazonie pour mettre de la protéine, tu arrives sur des sols qui sont glafis de matière organique. Alors les premières années, l'engrais dessus, là ça pousse, ça foisonne, c'est incroyable quoi, comment c'est productif. Parce qu'il y a des années, des siècles et des siècles que cette terre,
elle est riche, elle est belle,
d'une beauté incroyable. Et là, en 10 ans, tu la fusilles. Par contre, le mec qui a fait ça, qui a vendu ça pour faire du poulet qui va être transformé en Bretagne, lui, il a gagné du fric, tu vois. Donc non, laissons les paysans brésiliens travailler comme ils l'entendent.
Et se nourrir
comme ils l'entendent. Et arrêtons ces trucs qui partent dans tous les sens, parce que c'est bon pour personne.
On s'arrête pour une première partie. Ok.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré con.